Eh bien oui, je m'interromps un peu dans la suite des quatre notes de l'Église. Vous savez, une, sainte, catholique, apostolique. Alors on a vu déjà apostolique, on a vu sainte, on a vu catholique. On n'a pas vu l'unité encore, on la garde pour la fin. Mais en fait, si vous vous souvenez bien, quand on a parlé de l'Église apostolique, j'ai fait une distinction entre deux aspects du sujet. Une qui voulait dire l'Église fidèle à l'enseignement des apôtres, donc c'est la continuité de l'enseignement. Mais il y a un autre aspect qui découle de l'apostolicité, c'est-à-dire le fait que les responsables de l'Église émanent d'une initiative du Christ qui a voulu 12 apôtres, qui à leur tour ont choisi des évêques, qui ont choisi des prêtres, etc., jusqu'à aujourd'hui. Alors ça reste à voir et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors la question, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est brûlante, presque autant que la question de la sainteté de l'Église, et elle l'a toujours été d'une certaine manière. Le sacerdoce a toujours été, j'allais dire, le poil à gratter de toutes les sociétés, d'abord parce que les hommes sont imparfaits, et qu'il y en a dans les laïcs comme il y en a dans les prêtres, hélas, mais aussi parce que le sacerdoce a été voulu comme une manière pour le Christ de continuer à être agissant et entreprenant dans son Église, et que c'est pas toujours facile à supporter, comme nous aurions peut-être eu du mal à supporter Jésus nous vivions autour près de lui comme les premiers disciples. Alors, prenons d'abord quelques antécédents historiques. On voit que une des manières dont le problème s'est posé, ça a été la confrontation entre le pouvoir séculier, dont il y avait des princes chrétiens, et l'autorité de l'Église. Alors, ça a donné lieu à des questions très, très douloureuse. En Orient, ça a été un peu la mainmise sur l'Église par l'empereur, le Basileus de Constantinople, qui s'estimait un droit absolu sur l'Église, qui légiférait sur l'Église, alors qu'il n'était qu'un laïc, après tout. Justinien a tranché sur des questions de dogme. Enfin, il y a eu visiblement une grande tentation de considérer l'empereur comme on dit quelquefois, l'évêque de l'extérieur. Enfin, c'est lui qui est chargé de diriger l'Église de son pays. Alors, en Occident, ça a failli être un peu pareil, sauf qu'il y a ce qu'on appelle la réforme grégorienne, qui est au XIIe siècle, qui vient du pape Grégoire VII, qui a été quelque chose d'assez extraordinaire, dans lequel le pape a essayé d'arracher l'Église à la contrôle des autorités laïques, enfin des princes, et de tout l'appareil de la féodalité, qui au fond était prêt à prendre l'Église comme un rouage de son fonctionnement, hein, les évêques devenant soit eux-mêmes princes temporels pour quelques-uns, pour d'autres devenant étant à la discrétion des ducs, des comtes, des princes, enfin de tout ça. Et alors au sommet, évidemment, la question du sacerdoce et de l'Empire, du pape et de l'empereur, qui a amené des conflits séculaires et difficiles, parce que les autorités civiles voulaient pouvoir nommer surtout les grands dignitaires de l'Église, parce qu'il y avait un pouvoir économique, il y avait un pouvoir politique, et donc ils disaient on ne peut pas complètement se désintéresser de ça, il faut qu'on ait notre mot à dire. Alors avant qu'on trouve un équilibre, ça a été souvent difficile de négocier des concordats, enfin toutes sortes de choses comme ça. Alors, ce qui a reposé le problème d'une manière toute nouvelle, ça a été évidemment la réforme protestante qui, par la bouche de Luther, commençait à rappeler que le seul sacerdoce mentionné dans le Nouveau Testament, c'était celui des baptisés, dans la première lettre de Pierre. Vous êtes le sacerdoce saint, la nation sainte, la nation consacrée, etc. Faisant apparemment peu de place au sacerdoce qu'on va dire ministériel pour l'opposer, c'est-à-dire celui des prêtres, des évêques, des diacres. Alors, chez Luther, une certaine prudence et un certain sens catholique qu'il avait quand même gardé a fait qu'il n'a pas complètement abandonné l'idée qu'il y a des ministres désignés durablement qui exercent une fonction à la fois sacramentelle et d'enseignement, mais évidemment, dans les églises plus éloignées encore, comme celle ceux qu'on appelle les presbytériens, voire les ceux qui sont congrégationalistes, eh bien là, il n'y aura plus du tout de distinction et tout le monde sera pareil. Les prêtres seront désignés, enfin les pasteurs seront désignés pour un temps déterminé, mais il n'y a aucune consécration, il n'y a rien qui rappelle une fonction sacrée. Et aujourd'hui, alors je n'ai pas besoin de vous dire les difficultés qui se présentent, ceux qui disent, mais voilà, qu'est-ce que c'est que ce sacerdoce distinct des laïcs, sacralisé, avec un costume, avec une vie différente, sans se marier, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Revenons, soi-disant, aux origines, d'ailleurs, qui ne sont probablement pas ce qu'on croit, que les prêtres puissent se marier, qu'ils remplissent une fonction pendant un certain temps pour le bien de la communauté, mais cessons de les voir mettre sur le piédestal, parce que d'autant plus qu'ils ont prouvé qu'ils n'en étaient vraiment pas dignes pour certains. Donc voilà. Voilà notre question d'aujourd'hui, qui n'est pas une petite question. Alors, comme toujours, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par regarder l'écriture et la tradition de l'Église sur la question. Et on va commencer tranquillement par l'Ancien Testament, parce que beaucoup de lumières nous viennent quand même de lui, parce qu'on voit que Dieu a toujours agi par des médiateurs, des intermédiaires, des consacrés à différents titres. On voit que dès l'Exode, on met en avant la fonction d'Aaron, le frère de Moïse, qui est consacré à une cérémonie impressionnante avec ses fils et qui va être celui qui a le privilège, surtout pour la fête de Kippour, de pouvoir s'avancer dans la tente de réunion, qui viendra après le sanctuaire de Jérusalem, mais enfin pour l'Exode, c'est dans la tente de réunion, et présenter à Dieu le sang des animaux, et prononcer le fameux tétragramme, le fameux nom sacré de Dieu. Mais bon, il y a les prêtres, alors bon, il y a Aaron et ses fils, mais il y a autour d'eux la tribu de Lévi, qui a une fonction particulière dans le culte, qui même, à partir d'une certaine époque, seront concentrés pour le beaucoup à Jérusalem pour pouvoir remplir les fonctions dans le temple. Donc il y a finalement une distinction à trois degrés. Il y a le grand prêtre, qui est successeur d'Aaron. Il y a les prêtres, c'est-à-dire les lévites qui sont à Jérusalem, qui sont, on appelle aussi parfois les sacrificateurs, les kohanim, et puis les lévites qui constituent un groupe plus vaste, toute une tribu qui est souvent répandue un peu partout dans le territoire, mais qui garde des fonctions sacrées. Mais il n'y a pas que le côté sacerdotal, il y a aussi les rois qui ont une fonction sacrée, ils reçoivent une onction, et dans certains cas, on les voit qui bénissent au nom de Dieu, qui offrent même des sacrifices. David, on le voit dans plusieurs cas. Et puis, alors moins nettement, mais enfin, il y a le rôle des prophètes. Onction des prophètes, il y a un seul cas qui est connu, mais enfin, c'est pour Élisée, mais on voit bien que la fonction prophétique, qui est une fonction assez curieuse, parce que l'Esprit Saint vient d'un seul coup envahir un homme et l'amener à parler, mais ça n'empêche qu'il y a une certaine officialisation des prophètes qui deviennent des intermédiaires patentés entre Dieu et son peuple. Donc on voit que tout ça manifeste que Dieu passe par des hommes pour organiser, structurer son peuple, pour l'instruire, pour le reprendre, pour lui permettre d'avancer. Et on voit que celui qui est revêtu de cette fonction n'est pas là seulement comme un un titulaire provisoire qui aurait un rôle à jouer pendant un certain temps, mais qu'il est revêtu d'une force d'en haut, revêtu de l'Esprit Saint, manifesté par l'onction que reçoivent les prêtres et les rois, et qui signifie une pénétration en profondeur de l'Esprit Saint. Et derrière tout ça, évidemment, il y a un personnage qui est le Messie, dont le nom même veut dire celui qui a reçu l'onction, siar, le verbe oindre. Et alors, il a tantôt un côté plutôt royal, c'est pas dans pas mal de textes anciens, mais on voit qu'à partir d'un certain moment, on parle d'un Messie prêtre, qui, comme si on voulait à tout prix rapprocher ces deux fonctions qui pourtant sont en principe distinctes. Et on voit aussi que celui qui exerce au nom de Dieu une responsabilité, il vit dans sa chair, dans son existence même, l'affrontement entre le péché des hommes et la justice de Dieu. Alors on voit ça de façon douloureuse chez Jérémie, il a l'impression de prendre tous les coups qui sont destinés à Dieu et de devoir porter cette douloureuse intercession pour le peuple. On le voit dans un personnage alors tout à fait mystérieux qui apparaît dans la deuxième partie du livre d'Isaïe. On appelle souvent le serviteur souffrant, vous savez, ces grands textes qu'on lit à la fin du carême et le vendredi saint, ce personnage qui porte sur lui le péché des multitudes, qui est écrasé par le mal du monde et qui finalement ouvre une perspective de salut par ce moyen-là. Alors le Nouveau Testament, on ne peut pas dire, met en valeur le choix que Jésus a fait des 12. Ça arrive assez vite dans la vie publique de Jésus, et saint Marc, chez qui ça arrive au chapitre 3, nous dit « il en fit 12 », parce que ce verbe « faire » se retrouve aussi dans l'Exode pour dire qu'on fait des prêtres. Donc on a l'impression que ça a été déchoisi à dessein. En tout cas, il en fit 12 pour être avec lui et les envoyer prêcher. Donc les deux faces de non, ils ont un rôle d'être des disciples qui écoutent leur maître, qui se nourrissent de sa parole et qui vivent près de lui. Et en même temps, ils sont envoyés en mission. Donc Jésus les forme pour leur mission, et ça on voit tout au long de l'évangile, les 12 vivent avec Jésus et il les forme pour la fonction qui va être la leur après. Alors le mot d'apôtre qui est retenu dérive d'une notion hébraïque qui désigne l'envoyé, le messager. Ça peut être un messager, un facteur quoi, qui porte les lettres, ça peut être quelqu'un qui vient représenter le roi par exemple, serait plutôt la notion d'ambassadeur à ce moment-là, mais en tout cas, ils sont fondamentalement des envoyés. Et Jésus partage avec eux beaucoup de choses, et dans saint Jean, il souffle sur eux pour leur dire, voilà, recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, donc il leur donne un rôle dans ce qui est sa mission la plus essentielle, c'est-à-dire de remettre les péchés. Seul Dieu peut remettre les péchés, comme disaient les pharisiens, mais ils ont raison. Pas normalement, ce n'est pas à l'homme de faire ça, mais voilà que Jésus, qui est Dieu venu parmi nous, le fait, et, aux surprises, il confie aussi ça à ses disciples, à ses apôtres. Et on voit qu'un certain nombre de termes qui désignent Jésus, comme rocher ou berger, sont appliqués aussi, par exemple, à Pierre. Alors, dans les Actes des Apôtres, on voit cette chose tout à fait étonnante, c'est que très vite, c'est autour des 12 que se refait l'unité de ceux qui croient en Jésus. Après un moment de flottement où les apôtres n'avaient pas été brillants pendant l'arrestation, et le procès de Jésus, se retrouve quand même, leur rencontre ressuscitée, et c'est près d'eux, autour d'eux, que va se former la première communauté chrétienne. On nous dit qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, aux prières, à la fraction du pain. Donc, ils vont être les premiers prêtres de cette église naissante, au milieu desquels Il te parle des choses merveilleuses, des miracles, des guérisons, même d'une résurrection. On a l'impression que là où on est en communion avec les apôtres, eh bien, l'aventure du Christ continue. Alors, saint Paul porte témoignage, bien sûr, d'abord de sa mission à lui. Alors lui, il est un cas un peu particulier, puisqu'il n'est pas l'un des douze. Il s'en excuse presque, mais il dit « moi je suis venu après comme un avorton, je suis dernier-né ». Mais il revendique quand même la dignité d'apôtre parce qu'il a vu le Christ ressuscité, parce qu'il estime qu'il a été investi officiellement par lui. Alors surtout que les onze autres, enfin les douze vrais apôtres, on peut dire, l'ont reconnu et lui ont fait une place. Donc il est tout à fait dans sa mission d'apôtre. Et on voit que pour lui, ce n'est pas seulement d'être un prédicateur de l'Évangile, mais il organise les communautés qu'il a fondées, les structures, il leur donne des prêtres, enfin des anciens, comme ça qu'on désigne. Notre mot prêtre en français vient de là, presbyteros, c'était un mot qui existait avant, évidemment, le Nouveau Testament, dans lequel on désignait non pas seulement des gens âgés, mais surtout ceux qui formaient l'espèce de sénat, de conseil qui dirigeait la communauté. Ça existait dans les communautés juives, ça. Surtout dans la diaspora, c'est-à-dire en dehors d'Israël, il y avait comme ça, dans chaque ville où il y avait un nombre suffisant de juifs, il y avait des anciens qui dirigeaient la communauté. Eh bien, assez spontanément, Paul prend ce modèle-là et, alors sans doute, leur impose-t-il les mains il leur confie les communautés parce qu'il ne reste pas très longtemps. Une fois qu'il a fondé quelque chose, il va ailleurs. Il faut que les chrétiens vivent pendant ce temps-là. Et la messe, et donc certainement, ces hommes, ces prêtres, puisque ça va être le mot prêtre qui va servir après pour dire ça, eh bien, sont institués pour donner les sacrements. Dans un discours que Paul adresse aux anciens d'Éphèse, peu avant son arrestation et sa captivité à Rome, il leur dit bien qu'ils sont responsables de l'Église, ils ne sont pas seulement chargés d'un certain nombre de fonctions, c'est sur eux que la responsabilité morale et spirituelle de l'Église repose, qu'ils auront à rendre compte et qu'il faut qu'ils fassent très attention à eux et qu'ils gardent la vraie foi, bien minimum, mais aussi une vie en cohérence avec ça. Alors, dans ces lettres qu'on appelle pastorales, Paul donne une vision de ce que doit être le rôle des anciens, enfin des prêtres. C'est là qu'on voit apparaître aussi le rôle des épiscopes. Alors, épiscope qui va donner évêque, ça veut dire théoriquement surveillant. Alors, dans saint Paul, on ne voit pas très bien comment ces différentes fonctions, diacre, prêtre, évêque, tout ça, ça s'arrange ensemble. On a parfois l'impression que ces termes sont plus ou moins synonymes, mais d'autres fois, on voit qu'ils désignent des groupes différents. On a vraiment beaucoup de mal, parce que beaucoup de choses qu'on ignore finalement, et que saint Paul ne cherche pas à nous donner une description détaillée de l'Église de son temps. Il répond à des questions, il y a des choses auxquelles il fait allusion, mais il n'est pas en train de nous donner l'organigramme de l'Église, ce n'est pas son tâtage. Mais saint Paul n'oublie pas aussi de parler de tous les chrétiens comme devant offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur et donc étant prêtre. Alors celui qui chante particulièrement, évidemment, le sacerdoce baptismal, cette fois-ci, c'est saint Pierre. Dans sa première lettre, il dit « Vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte. » En prenant appui sur un passage de l'Exode où déjà Moïse avait dit que ce peuple était une nation sainte, et il élargit et parle d'un sacerdoce royal. Donc, veut dire que tout baptisé, par son baptême, il a une fonction sacerdotale qui est au moins d'offrir sa vie, d'offrir son travail, d'offrir sa famille à Dieu et de vivre en conformité avec ce que Dieu demande. Ben, c'est déjà un sacerdoce. Ce n'est pas tout à fait le même que celui du prêtre qui est à l'autel, mais c'est tout à fait indispensable. Alors, donc, vous avez bien compris qu'on voit apparaître chez les apôtres, dans le Nouveau Testament, ces termes de prêtre, de diacre, d'évêque même, dont on n'est pas toujours sûr qu'ils ont exactement le sens d'aujourd'hui, mais qui malgré tout s'en approchent. Parce que ça, on voit Saint-Pierre dans sa lettre dit des anciens, parce qu'il parle des fameux anciens qui étaient chargés des communautés chrétiennes, il leur dit « Moi qui suis comme vous, anciens, sum presbytero, je suis co-presbytre avec vous. » Donc, il fait bien une continuité entre la mission apostolique, qui était la sienne, Pierre était un des douze et le premier de tous, eh bien, il se range dans les prêtres. Donc, il nous montre bien qu'il y a continuité entre la fonction apostolique qui était au début et puis ce qui va venir après, c'est-à-dire un sacerdoce au sens moderne. Alors, j'ai prononcé le mot de sacerdoce et j'aurais pu dire prêtrise, mais il y a deux mots en fait, deux racines qui désignent maintenant la même chose mais qui sont différentes. Il y a prêtre, qui vous ai dit qui venait du mot presbyteros qui veut dire ancien. Mais il y a sacerdoce qui vient du mot latin qui désigne celui qui offre le culte, le sacrificateur. En hébreu, Kohanim, Kohen. Tous les gens qui s'appellent Kohen, c'est qu'ils sont héritiers d'Aaron ou de ses fils, et en tout cas qui ont quelque chose à voir avec le culte. Alors en français, il n'y a pas de mot, enfin il y avait en vieux français le mot sacerdote qui désignait les prêtres, mais ça a disparu du français moderne, on ne connaît plus que l'autre racine, prêtre, mais c'est la même chose, évidemment. Alors chez les pères de l'Église d'abord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit très vite s'affirmer la structure de l'Église, par exemple, à la fin du 1er siècle, on est encore tout près des apôtres, Clément de Rome, qui est le troisième successeur de Pierre à la tête de l'Église de Rome, envoie une longue lettre aux chrétiens de Corinthe, en Grèce, pour leur rappeler qu'il faut qu'ils s'arrangent et qu'ils acceptent d'obéir à leurs prêtres, ce qui n'avait pas été le cas. Ils les avaient mis dehors, même. Ils avaient mis leurs anciens dehors. C'est pas gentil, c'est pas respectueux. Eh bien, Clément leur dit, bon, c'était peut-être un peu insupportable, mais malgré tout, c'est les prêtres que vous avez, et il faut que vous les accueilliez, que vous fassiez la paix avec eux, il n'y a pas de problème, vous ne pouvez pas rester sans guide spirituel. Alors, dans les lettres d'Ignace d'Antioche, qui est un peu postérieur, des tout débuts du IIe siècle, il est mort martyr, je crois, en 107, à Rome, eh bien, il envoyait des lettres pendant qu'il était conduit en captivité à toutes les églises par lesquelles il passait pour les encourager. Alors, il parle beaucoup de cette tripartition évêque, prêtre et diacre. On sent que cette fois-ci, c'est vraiment mis sur pied. Dans les lettres de saint Paul, on ne comprend pas complètement ce qu'il en était, mais maintenant, on voit à peu près, hein, il y a un évêque par ville qui est le patron, quoi, celui qui dirige. Il a autour de lui un groupe de prêtres qui constituent comme son conseil, mais qui aussi remplissent des fonctions à la ville ou à la campagne. Et puis, il y a les diacres qui sont spécialisés dans le service des pauvres, la gestion des biens de l'Église, et qui jouent un rôle important dans la liturgie. On voit que assez vite, la communauté chrétienne se distingue justement par la force de sa structure. Alors on sent qu'au moment des persécutions, les empereurs se sont dit, ben, ces gens-là, ils sont courageux, ils sont fermes dans la foi, mais surtout, il y a des gens qui les conduisent, qui les dirigent et qui donnent une âme à cette communauté chrétienne. Donc la meilleure manière, c'est de taper plutôt sur les prêtres et sur les évêques, comme ça, on tuera plus sûrement le christianisme. Ils ne sont pas arrivés. Mais la persécution d'Aurélien, par exemple, était exclusivement dirigée vers les prêtres. C'est là, dans cette persécution, qu'est mort le grand évêque de Carthage, Saint Cyprien, qui est mort en 259, si je me souviens bien, pendant la persécution d'Aurélien. Alors ensuite, on voit s'organiser une société avec quand la paix de l'Église arrive, quand l'Église s'organise, quand se structure, eh bien voilà, il y a des prêtres, il y a des évêques, il y a des diacres, et tout ça se répand. Alors, vous allez me dire, mais à ce temps-là, est-ce que les prêtres étaient célibataires ou est-ce qu'ils étaient mariés? Alors, si vous lisez les textes, on voit qu'ils sont souvent mariés, mais ce qu'on voit moins bien, c'est qu'en fait, il semble que dans la majorité des cas, on leur demandait, à partir de leur ordination, de vivre dans la continence avec leurs femmes. Et alors surtout qu'ils étaient souvent âgés, alors c'est peut-être moins terrible, moins difficile de respecter ça, et qu'en principe, ils n'avaient plus de relation conjugale à partir du moment où ils avaient reçu l'ordination. Mais, alors on a des textes de concile qui disent ça, qui rappellent ça, il y a le concile de Carthage notamment qui rappelle ça, mais c'était pas très facile à tenir, parce que ils vivaient souvent proches l'un de l'autre. Alors il y a quelques cas où la dame allait aller dans un monastère, alors là ça simplifiait tous les problèmes. Quand Saint Germain d'Auxerre est élevé à l'épiscopat, mais ben, il se sépare, elle va dans un monastère et lui il s'occupe de sa fonction d'évêque. C'est très simple, mais c'est certainement pas toujours le cas. Et bien sûr, il y avait des retours en arrière et c'était. Donc c'est là que deux disciplines différentes se sont installées. Du côté de l'Occident, on a ordonné de plus en plus des célibataires pour éviter ce genre de problème. Et du côté de l'Orient, on a, contrairement à l'enseignement plus ancien, accepté qu'ils aient une vie conjugale étant prêtres, mais pas évêques. Ça, les évêques, toujours prévu qu'ils soient. D'abord, on prend parmi les moines, alors comme ça, c'est plus simple. Ils ne sont pas mariés. Mais les prêtres qui étaient désignés les prêtres orientaux, disons de Grèce, de tous ces pays-là, on a pour eux quand même des conditions ascétiques, notamment ils ne peuvent pas avoir de relation conjugale à l'approche du moment où ils vont célébrer la messe, c'est pour ça qu'ils ne célèbrent pas tous les jours, et quand ils vont en pèlerinage, enfin, il y a toujours le souhait d'une certaine continence au sein des couples sacerdotaux, mais enfin, on leur interdit pas, et c'est comme ça que va se camper une opposition de deux disciplines. Alors, beaucoup de pères de l'Église ont réfléchi profondément sur cette distinction des prêtres et de ce qu'on va appeler les laïcs. Alors, laïcs, hein, faites attention, c'est un mot un peu piégé, parce que aujourd'hui, ça désigne. Alors, je vois que je m'approche de là où va avoir la coupure, alors il faut que j'assume un peu parce que je suis pas encore tout à fait à la fin. Le mot laïque, ça veut dire membre du peuple de Dieu, laos, laïkos. C'est pas du tout dire qu'on est anti-religieux ou contre les curés, mais ça veut dire qu'on fait partie du peuple de Dieu. Alors, le Moyen-Âge va continuer un peu sur ce que je vous ai dit, avec des dérives, des scandales, des choses pas très belles qui arrivent quelquefois, et on voit que le Concile de Trente, alors après la cassure protestante, essaie de remettre de l'ordre en donnant aux prêtres vraiment une direction, rappelant le caractère sacré de leur fonction, du fait qu'ils ne devaient pas vivre comme des laïcs, qu'ils devaient vivre à part, qu'ils devaient être habillés différemment. Enfin, on voit le souci de conforter ce corps sacerdotal dans sa dignité et sa fonction. Et c'est là que vont commencer les séminaires, c'est-à-dire l'idée que pour former les prêtres, on ne se contentera pas qu'ils fassent des études, puis qu'ensuite un évêque les ordonne, on va exiger d'eux une vie commune, une formation, quelque chose de beaucoup plus sérieux qui les préparera, pas seulement au point de vue intellectuel ou au point de vue pastoral, mais les préparera d'avoir choisi une vocation sainte, donc de vivre non pas comme des petits moines, mais enfin d'avoir une règle de vie, des exercices de piété réguliers, une spiritualité qui leur permette d'être dans le monde sans être du monde. Et alors là, il y a un grand nom, c'est le cardinal de Bérulle qui a joué en France un rôle considérable pour remettre en valeur le sacerdoce et dire qu'au fond, dans le sacerdoce, Jésus se rendait présent d'une façon spécifique et qu'il transformait intérieurement celui qui était revêtu de ce sacerdoce. Ce n'était pas qu'une désignation, ce n'était même pas seulement une officialisation, c'était une véritable consécration en profondeur. Bon, je passe sur les épisodes plus modernes et Vatican II qui n'a pas changé l'enseignement traditionnel mais qui a mis en valeur aussi le rôle des évêques. Parce que les évêques, on se demandait par moments si, l'essentiel c'était pas le sacerdoce et l'évêque serait simplement distinct par la fonction qui était la sienne, la juridiction qu'il avait exercée sur un diocèse, mais que pour le reste, il ne se distinguerait pas fondamentalement des prêtres. Alors Vatican II a rappelé que l'épiscopat est un sacrement, et donc que le troisième degré du sacrement de l'ordre, comme on dit, premier c'est les diacres, deuxième c'est les prêtres, les évêques, est un sacrement, donc il est une nouvelle consécration qui est donnée au prêtre qui devient évêque. Du point de vue du magistère de l'Église, la ligne n'est pas douteuse. Souci de garder cette cohérence du sacerdoce apostolique. Alors, une rapide synthèse avant que je laisse l'antenne. Celui qui est prêtre par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, comme tout le monde le dit, et c'est vrai, c'est lui qui, en s'offrant sur la croix, et déjà en prenant notre humanité dans le sein de la Vierge Marie, a porté une vie consacrée, une vie totalement consacrée au milieu du monde, et qui, en plus, a accepté de s'offrir pour ses frères en humanité, et donc à ce titre, il est pleinement et complètement prêtre. Il y a les prêtres ministériels, ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre et qui ont été branchés directement sur Jésus-Christ prêtre pour faire rayonner ce sacerdoce dans le monde. Et il y a les fidèles laïcs qui ont reçu par le baptême un branchement aussi sur Jésus qui fait d'eux des prêtres en un autre sens, c'est-à-dire qu'ils ont à jouer dans ce monde le rôle de consacrer ce monde par leur prière, leur sacrifice, le sérieux de leur vie chrétienne et de leur vie familiale, la solidité de leur apostolat auprès des autres, et qu'en ce sens, ils sont bien prêtres, c'est-à-dire, si on définit prêtre comme celui qui offre à Dieu sa vie pour les autres, bah, ils remplissent tout à fait cette fonction-là.
Cher Père Giton, je n'ai pas de questions, mais en tout cas, de mon côté, j'ai retrouvé, vous citiez saint Ignace d'Antioche, qui est un témoin très, très proche des origines apostoliques de l'Église, et qui parlait ainsi dans sa lettre, dit « Si la prière de deux personnes est si puissante, combien les plus encore celle qui se fait avec l'évêque, avec toute l'Église ? Fuir l'assemblée des fidèles, c'est afficher l'orgueil, s'excommunier soi-même et prononcer sa propre condamnation. » Est-ce que ça veut dire que les églises issues de la réforme protestante ou toutes les sectes qui se sont affichées depuis le début de l'Église se coupent de la grâce de Jésus?
Ah ben, c'est sûr que la transmission apostolique n'est plus préservée dans la grande majorité des cas. Il y a eu, on s'est longtemps demandé pour les églises anglicanes qui avaient été rentrées dans la réforme évêque en tête. Donc pendant un certain temps, elles ont dû garder la succession apostolique. Mais à partir du XVIIIe siècle, c'est moins clair, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le pacte noir, qui a fait que les évêques se sont engagés à ne prendre aucune formule de consécration pendant l'ordination des évêques. Donc, comme ils font plus que fait l'Église, on pense qu'il n'est pas du tout sûr que la transmission ait continué. Mais enfin, ça, c'est un cas particulier, c'est l'Église d'Angleterre et aussi les quelques églises en Suède. Mais dans la majorité des cas, oui, la succession apostolique a été interrompue par le fait Luther, par exemple, qui n'était pas évêque, a ordonné des prêtres. Et donc, la chaîne s'est rompue quelque part, par là. Et c'est grave, bien sûr, c'est pour ça qu'on... On peut parler des églises orthodoxes, par exemple, mais on peut difficilement parler d'église à proprement parler à propos de nos frères protestants. On parle de communauté ecclésiale dans ce cas-là, pour éviter ce qu'on pense qu'ils n'ont plus vraiment la succession apostolique.
C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le pain des enfants, ils n'ont plus le pain de vie, ils sont plus dans la maison du Père, donc ils n'ont pas la nourriture des enfants.
C'est ça. Alors, ils ont le baptême, quand même, qui est toujours valide. Ils ont ils lisent l'Écriture sainte comme nous. Ils prient notre Père. Donc, ils ont quelques éléments importants encore de l'héritage, mais c'est sûr qu'ils n'ont plus tout l'héritage.
Et lorsque vous citiez l'Église orthodoxe, je pense aussi aux églises arméniennes ou éthiopiennes ou coptes. Elles ont aussi un corps hiérarchique constitué, il y a des évêques, des prêtres.
Elles ont toujours gardé une structure épiscopale. Donc nous, dans ce cas-là, on reconnaît la validité de leur baptême, non seulement de leur baptême, parce que ça on reconnaît dans tous les cas, mais aussi de leur messe, les sacrements qu'ils donnent.
C'est par là, donc c'est dans cette origine apostolique et dans cette union avec le cep, la vigne véritable qu'est l'Église catholique, ils sont unis par cette fidélité, par cette obéissance, par cette transmission, ils sont unis à la vie qu'il y a dans la vigne de l'Église catholique.
Oui, absolument.
Très bien, mon cher Père. Et je vous laisse continuer, je n'ai pas précisément d'autres questions.
Oui. Ah bon, vous n'aviez pas d'autres questions. Bon, comme j'ai dû passer un peu vite à la fin, je vais peut-être juste revenir sur un point. C'est que, effectivement, on voit que, avec Vatican II, il y a une sorte de recentrage qui fait qu'on parle beaucoup plus du peuple de Dieu et que certains ont pensé que. Ça faisait passer au deuxième plan la structure hiérarchique de l'Église, parce qu'on voyait surtout que tout le monde était prêtre. Alors, je vous ai expliqué que c'était pas prêtre au même sens entre la fonction de celui qui a reçu la triple charge d'enseigner, de sanctifier par les sacrements et de gouverner. C'est ça, le prêtre et l'évêque ont reçu ces trois charges en même temps. Et tandis que les fidèles, eh bien, c'est sûr qu'ils sont prêtres par leur offrande personnelle, par leur vie de prière, par leur activité au profit du Christ et de l'Église, par leur apostolat aussi. Hein, ils sont prophètes en ce sens-là, ils ont reçu une grâce prophétique, de même qu'une grâce sacerdotale. Mais alors donc Vatican II n'a pas eu pour but de faire de l'Église une démocratie, parce que peuple de Dieu, hein, il faut bien être conscient que c'est pas le peuple au sens où ça s'oppose au chef ou à leur l'autorité, c'est au sens du peuple, c'est-à-dire l'ensemble des fidèles, prêtres compris, qui constituent un corps uni. Et c'est pour ça que le mot laïque a été choisi d'ailleurs, parce que peuple en grec, ça peut se dire de deux manières, ça peut se dire démos, au sens de la démocratie, mais ça peut se dire aussi laos, c'est-à-dire c'est le peuple en armes, c'est tout les habitants masculins là, qui forment ensemble une armée, et c'est ça, ce mot-là qui a été retenu pour l'Église, c'est pas le mot de démos. ce mot de Laos et qui correspond donc à marquer que tous ensemble nous formons un corps avec des membres différents, avec des fonctions différentes, mais que nous formons un corps. Mon peuple n'a pas d'autre sens que ça. Bon, donc il y a eu cette question autour de Vatican II qui, je pense, est relativement, je dis bien, éclairci aujourd'hui, mais on voit que ce qui reste au cœur de la polémique, c'est le côté différence, et cette différence de mode de vie, différence de costume, enfin ça c'est le plus extérieur, mais qui fait que le prêtre n'est pas seulement provisoirement un membre du troupeau qui prend une fonction au profit de ses frères, mais qu'il a été distingué, mis à part par une vocation spéciale et qu'il sera prêtre pour l'éternité. C'est cette question prête pour l'éternité, évidemment, qu'on a mis en avant, parce que c'est d'abord de Jésus qu'on dit ça, qu'il est prêtre pour l'éternité, mais on dit aussi des prêtres de l'Église. Ça suppose une marque indélébile, quoi, qui soit même pour au-delà de cette vie.